Effectivement, que le Seigneur veille sur mes pensées, sur mes lèvres, sur mes sentiments, que le Seigneur dirige vos pensées et vos sentiments aussi. Il y a une phrase qui apparaît dans la lettre de Paul aux Corinthiens, quand il liste les différentes apparitions de Jésus ressuscité. Il y a cette petite phrase, « Il est apparu aux 12 ». Et nous le savons, Jésus est apparu aux apôtres de différentes manières et à différents endroits. Les 12 apôtres sont les témoins officiels de la résurrection. C'est le collège qui fait référence. Ils sont 12 parce qu'ils doivent représenter les 12 tribus d'Israël. C'est un chiffre symbolique et quand Judas fait défection, il faut que ce chiffre soit complété, ça sera fait au début du livre des Actes des Apôtres. Et alors, à côté des récits où Jésus apparaît aux 12, nous avons deux récits de sa résurrection qui sont plus intimes. Jésus apparaît d'abord à Marie de Magdala, tôt, le dimanche matin, avant d'apparaître à Pierre, à Jacques, aux 12. Et c'est certainement là, dans l'évangile de Jean, le récit le plus poignant, le plus touchant. C'est comme tous, c'est comme si nous entendions Jésus nous appeler par notre nom, comme il a appelé Marie. Marie, Gordon, Jean-Pierre. Et l'autre récit intimiste que j'aimerais partager avec vous, c'est celui qui fait suite à la lecture de Sandrine tout à l'heure dans l'évangile de Luc. Tôt le dimanche matin, vous avez le premier récit des femmes qui arrivent et qui trouvent le tombeau vide. Puis toutes sortes de choses se passent parce qu'il y a plein de monde à informer dans la ville de Jérusalem, dans différentes maisons, à Bethanie. Alors les femmes s'éparpillent à droite et à gauche. Et nous avons ici le récit de Luc, concernant deux personnes qui ne sont pas membres du collège des 12, mais qui étaient assez proches des 12. Et je pense que Luc connaissait ses disciples personnellement. Luc donne le nom de l'un d'entre eux. Ils sont attachés à un même village qui s'appelle Emmaüs, à 12 kilomètres de Jérusalem. S'agissait-il de deux amis ? D'un couple, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est des gens qui rencontrent Jésus d'une manière très intime et très personnelle. Je vais donc faire la lecture de ce récit dans Luc 24, verset 13. Le même jour, donc le dimanche matin, après ce que nous venons de lire, le même jour, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci » ?»« Quoi donc ?» leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. » C'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais, hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Alors, commençons par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir aller continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. » Alors les deux disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus se trouva au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Voilà donc le récit de ces deux disciples qui se rendent à un village à 12 kilomètres de Jérusalem, au village d'Emmaüs. Qu'est-ce qu'on peut dire de leur état d'esprit ? Au verset 14, ils discutent des événements de la semaine qu'ils viennent de vivre. Jean-Pierre a évoqué ces événements, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, les événements de la dernière semaine, les controverses, les conflits, et puis l'arrestation de Jésus et sa mort sur une croix. Ils parlent surtout, je crois, de la mort de Jésus. Ils sont dans le deuil. Et pour digérer des événements aussi dramatiques, ils ont besoin de parler. Pas parce que la psychologie les incite à le faire, ça c'est déjà pas mal, mais parce que c'est naturel. Se taire dans de pareilles circonstances, mettre le bouchon sur la cocotte, cela ne les aidera pas. Ils partent. Ils doivent faire le deuil de quelqu'un qu'ils aimaient. Et leur sentiment de perte, cette espèce de désorientation qui survient après la mort, chez eux, c'est d'autant plus fort qu'ils avaient mis tous leurs espoirs en Jésus. Un prophète, disent-ils, qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Des prophètes, des vrais, ça ne courait pas les rues à cette époque-là. Jean-Baptiste avait surgi après 4 siècles de silence. Jean-Baptiste avait annoncé qu'un plus grand viendrait après lui. Il a témoigné en faveur de Jésus. Et beaucoup pensaient, comme ceux d'Emmaüs, comme les deux d'Emmaüs, que Jésus était celui qui devait venir délivrer Israël. Il était le Messie. Mais il est mort. Les chefs religieux et les chefs politiques d'Israël l'ont rejeté. Les Romains l'ont fait mourir de la manière la plus cruelle imaginable. Pas comme un héros, pas comme un martyr, mais comme un moins que rien, comme un criminel. Il est mort, Jésus. Et les espoirs de beaucoup de gens sont morts avec lui. Comment digérer cela? Comment comprendre cela? Était-il un faux prophète alors qu'il avait fait tant de beaux miracles, alors qu'il avait tenu des propos si vrais? Était-il le Messie? Mais le Messie vient pour régner, pas pour mourir. Le plan de Dieu a-t-il déraillé? Et nous qui avons tant misé sur Jésus, comment allons-nous reconstruire notre vie maintenant? Et puis, comment comprendre les quelques informations qui nous sont parvenues avant de prendre le chemin d'Emmaüs? Quelques femmes parmi les disciples sont allées au tombeau le dimanche matin de bonne heure et le corps n'était pas là. Ces femmes disent avoir vu des anges. Ces anges auraient affirmé que Jésus était vivant. D'autres disciples sont allés vérifier. Effectivement, le tombeau était bien vide. Mais pour le reste, des anges qui disent que Jésus est vivant, ce sont des histoires de bonnes femmes. Des hallucinations provoquées par le choc du vendredi et le deuxième choc du tombeau vide. Des hallucinations circulaient, il n'y a rien à voir. Le match est plié, on rentre. Nous avions misé sur lui et nous avons perdu. Il est mort. La vie continue, péniblement, et tout est à revoir. Les deux d'Emmaüs ne savent rien de Marie de Magdala qui a vu Jésus, ni d'autres femmes qui l'ont vu aussi quelque part dans les rues de Jérusalem ou sur le chemin de Béthanie. Ils n'ont pas tous les éléments du puzzle, ils ne comprennent pas et ils n'acceptent pas une information si c'en est une qui contredirait leur deuil. Voilà leur état d'esprit. Jésus s'approche et fait route avec eux et ils ne le reconnaissent pas. Et je me dis que c'est un peu comme cela avec nous. Jésus peut s'approcher de nous sans qu'on s'en aperçoive. Dans nos heures noires, il nous entend brasser des idées sombres. Il nous suit dans nos itinérances. Il nous accompagne. Il dialogue avec nous. Il raisonne avec nous. Il prend nos pensées et y injecte quelque chose d'inédit. Et souvent, on ne se rend pas compte tout de suite. Quelles sont donc les nouvelles pensées que Jésus insuffle à ceux d'Emmaüs? Et le début de ce qu'il leur dit est tout à fait surprenant. Il aurait dû prendre un cours de relation d'aide sur Jésus. Il commence par leur faire des reproches, l'homme lent à comprendre. Je ne sais pas si je me serais permis de commencer par un tel mot de reproche à ceux qui sont dans le deuil. Jésus pouvait certainement se le permettre. Mais quel est le fond de ce mot qui bouscule? Le fond, c'est qu'ils étaient lents à croire. Ils avaient la Bible, leur Bible, l'Ancien Testament pour nous. Ils auraient dû y voir certaines choses, j'y reviendrai. Ils sont lents parce qu'ils ont déjà pu entendre certaines explications données par Jésus à ses intimes. Et cette lenteur, cette incompréhension porte sur un point, le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses? Ils croyaient en Jésus le Messie, mais ils n'avaient pas compris les psaumes. Ils ont dû comprendre que le fils de David a dû vivre les mêmes choses que son ancêtre, c'est-à-dire la trahison, l'abandon, la moquerie, la vallée de l'ombre de la mort. Ils n'avaient pas compris David dans les psaumes et ce que le fils de David devait vivre. Ils n'avaient pas compris Ésaïe 53, où le serviteur de l'Éternel donne sa vie en rançon pour la multitude. Ils n'avaient pas compris que le Messie, devait souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire. Devait, parce que le péché des hommes les sépare de Dieu et exige une rédemption. Ils n'avaient pas pigé. Eh bien, à l'heure des charges, nous pourrions dire que les souffrances du Messie ne figurent pas sur toutes les pages de la Bible, enfin de leur Bible, de l'Ancien Testament. Mais elles y sont déjà dès le début, dès le livre de la Genèse. Au chapitre 3, Dieu annonce la venue d'un sauveur qui écrasera la tête du serpent. Le serpent, c'est le diable. Le sauveur écrasera la tête du serpent. Et le serpent, quelle est sa manière d'attaquer les hommes et de les tuer? Il est mort dans le bas des jambes, quand on les frôle sur les chemins, dans les herbes. Le serpent vous mord au talon. Et dans Genèse 3, le sauveur sera mordu au talon. Il va vaincre, mais au prix de sa vie. Et ça, c'est dans l'un des livres les plus prestigieux de la Bible, dans le premier livre de la Bible, et nos deux amis ne l'avaient pas vu, ne l'avaient pas compris, et ils n'étaient pas les seuls. Ils auraient dû. Et donc, après ce mot qui bouscule, vous êtes lent à comprendre, après ce mot qui bouscule, Jésus offre une nouvelle compréhension de la Bible. Commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Je me dis que quand Jésus s'approche et fait route avec nous, cela ne peut pas simplement se limiter à un sentiment de bien-être. Il faut parfois que notre regard sur les choses change, que notre compréhension de la Bible évolue. Il faut parfois que notre intelligence soit renouvelée, qu'elle s'en trouve réorientée. Et la Bible est là pour cela. Le Saint-Esprit s'en sert quand nous sommes seuls devant Dieu et quand nous sommes au bénéfice de la parole de Dieu dans l'Église. Et donc, après ces explications, après ces éléments nouveaux qui sont insufflés dans la compréhension des événements, les deux d'Emmaüs disent « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils ne s'y attendaient pas. Ne cherchez pas ça. Mais à l'écoute de Jésus, c'est comme un feu qui s'est allumé chez eux. Je pense à Blaise Pascal, au XVIIe siècle. Lors de sa conversion, il parle aussi du feu, dans un petit document cousu dans la doublure de son manteau qui est resté avec lui toute sa vie, le feu qu'il a vécu lors de sa conversion. Je pense aussi à John Wesley, à l'origine d'un immense réveil au XVIIIe siècle. Il dit que tel jour, à Londres, à l'écoute de l'épître aux Romains, son cœur se réchauffait étrangement. Ce sont ses mots. Et oui, ça existe. C'est possible. Ou peut-être plus simplement, une joie inattendue, une paix, un sourire, une larme, une émotion que nous n'avons pas cherchée, comme les gens cherchent l'émotion au cinéma ou en allant dans un stade. Non, pas une émotion que nous avons provoquée, mais une émotion qui nous surprend parce que Dieu est en train de nous parler. Le feu, la joie, la paix, le sourire, une larme. C'est donc un inconnu qui chemine avec les deux d'Emmaüs et qui discute avec eux. En fin d'après-midi, ils arrivent au village. J'ai calculé 12 kilomètres. Pour moi, ça fait 3 heures de marche sans les pauses. Nous sommes donc environ à 16 heures, peut-être 18 heures. La discussion leur a fait du bien, peut-être. Peut-être commencent-ils à entrevoir qu'il y a une autre manière de regarder les événements passés, et donc une autre manière d'envisager l'avenir. Le Messie devait souffrir. Peut-être que nous le verrons maintenant dans sa gloire. Ils n'avaient pas reconnu Jésus. Et ça reste pour nous mystérieux. Physiquement, avait-il changé? Certainement, son corps de ressuscité n'avait rien à voir avec cette loque humaine qui était descendue d'une croix. Physiquement, peut-être, avait-il changé. Psychologiquement, est-ce que ces gens étaient dans l'incapacité de le reconnaître, bloqués par la dureté de ce qu'ils avaient vécu ? Étaient-ils peut-être bloqués psychologiquement ? Ou peut-être que Jésus s'était arrangé tout simplement pour leur cacher ses mains ? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que les deux disciples avaient déjà vu Jésus présider un repas, et tiens, maintenant, il préside ce repas-là. C'est lui le chef, tiens. Ils avaient déjà vu comment Jésus distribuait le pain, comment il rendait grâce, et là, dans cette maison, c'est le déclic. C'est Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Et Cléopas, je pense que c'est lui qui a raconté cela à Luc, il n'était pas obligé de relever ce détail, il n'était pas obligé de le dire à Luc, et Luc n'était pas obligé de le reprendre deux fois de suite à quelques versets d'intervalle. Ils l'ont reconnu lors de la fraction du pain. Il y a peut-être là un message caché. Rendre grâce, bénir ou prononcer la prière de bénédiction, suivant ma traduction, eh bien, ça c'est le même vocabulaire que lorsque Jésus nourrit la foule ou quand il mange la Pâque avec ses disciples avant de mourir. Luc parle de rompre le pain quand il décrit les assemblées des premiers chrétiens. Est-ce que Luc veut nous inviter à reconnaître Jésus quand nous partageons la scène ensemble? Beaucoup de chrétiens le pensent. Et cela implique de prendre le temps pour méditer, une méditation à la fois personnelle et une célébration collective. Reconnaître Jésus dans les circonstances de la vie, même douloureuses, c'est possible. Reconnaître Jésus en Église, c'est prévu. Un dernier regard sur cette journée des deux d'Emmaüs. À 17h, 18h, ils ne peuvent pas simplement terminer leur repas et aller se coucher. Ils plaquent tout et font les 3 heures de marche pour revenir à Jérusalem et retrouver leurs compagnons. Quand ils arrivent, il fait nuit. Ils ne peuvent pas taire tout ce qu'ils ont vécu. Et ils découvrent qu'au moins une autre personne a vu le Seigneur. C'est l'apôtre Pierre. Bon, ça c'est sans mentionner Marie de Magdala, sans mentionner d'autres femmes, c'est Pierre qui compte. Pierre a vu le Seigneur. Celui qui avait tellement honte. Celui qui a pleuré toutes les larmes de son corps. Celui qui ne pouvait pas digérer son deuil. Pierre. Pierre a vu le Seigneur. Et il a dit aussi aux autres. L'enthousiasme commence à les gagner. Et Jésus apparaît de nouveau. Aujourd'hui, nous connaissons les faits. Peut-être avons-nous du mal à être toujours enthousiastes. D'autant plus que dans notre société sécularisée, nous serions poussés vers le silence. Peut-être devrions-nous demander à Dieu de nous toucher au sein de notre quotidien, de nous donner quelque chose à raconter à nos frères et même au-delà. Une foi enthousiaste, ce mot vous dit peut-être quelque chose. Si nous reconnaissons Jésus dans les événements de la vie, dans les Écritures, si le pain et le vin nous parlent de lui, nous ne resterons pas les mêmes. Amen.